Liturgie de la parole de ce mardi 3 février 2026, mardi de la 4e semaine du temps ordinaire, année Père. Sauve-nous, Seigneur notre Dieu, rassemble-nous du milieu des nations, que nous rendions grâce à ton saint nom, fiers de chanter ta louange. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Dieu éternel et tout-puissant, dans ta tendresse inépuisable, tu combles ceux qui t'implorent bien au-delà de leurs mérites et de leurs désirs. Répands sur nous ta miséricorde en délivrant notre conscience de ce qui l'inquiète et en donnant plus que nous n'osons demander. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous.
Et avec votre esprit.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc.
Gloire à toi, Seigneur.
Au 5e chapitre du 21e, au 43e verset. En ce temps-là, Jésus regagna en barque l'autre rive, et une grande foule s'assembla autour de lui. Il était au bord de la mer. Arrive un des chefs de synagogue, nommé Jaïr. Voyant Jésus, il tombe à ses pieds et le supplie instamment. « Ma fille, encore si jeune, est à la dernière extrémité. Viens lui imposer les mains, pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus partit avec lui, et la foule qui le suivait était si nombreuse qu'elle l'écrasait. Or, une femme qui avait des pertes de sang depuis 12 ans, elle avait beaucoup souffert du traitement de nombreux médecins et elle avait dépensé tous ses biens sans avoir la moindre amélioration. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Cette femme donc, ayant appris ce qu'on disait de Jésus, vint par derrière dans la foule et toucha son vêtement. Elle se disait en effet, « Si je parviens à toucher seulement son vêtement, je serai sauvée. » À l'instant, l'hémorragie s'arrêta et elle ressentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Aussitôt, Jésus se rendit compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna dans la foule et demandait « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui répondirent « Tu vois bien la foule qui t'écrase et tu demandes « Qui m'a touché ?» Mais lui regardait tout autour pour voir celle qui avait fait cela. Alors la femme, saisie de crainte et toute tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Jésus lui dit alors, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Comme il parlait encore, des gens arrivent de la maison de Jaïr, le chef de synagogue, pour dire à celui-ci, « Ta fille vient de mourir. À quoi bon déranger encore le maître ?» Jésus, surprenant ces mots, dit au chef de synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » Il ne laissa personne l'accompagner sauf Pierre, Jacques et Jean, le frère de Jacques. Ils arrivent à la maison du chef de synagogue. Jésus voit l'agitation et des gens qui pleurent et poussent des grands cris. Il entre leur dit pourquoi cette agitation et ces pleurs. L'enfant n'est pas morte, elle dort. Mais on se moquait de lui. Alors, il met tout le monde dehors. Prend avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui étaient avec lui. Puis, il pénètre là où reposait l'enfant. Il saisit la main de l'enfant et lui dit « Talitha koum », ce qui signifie « Jeune fille, je te l'ai dit, lève-toi. » Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher. Elle avait en effet 12 ans. Ils furent frappés d'une grande stupeur, et Jésus leur ordonna fermement de ne le faire savoir à personne. Puis, il leur dit de la faire manger. Acclamons la parole de Dieu.
Louange à toi, Seigneur Jésus.
Chers auditeurs, chers internautes, une seule phrase résume la liturgie de la parole d'aujourd'hui. La vie humaine est sacrée. La vie est sacrée et donc il faut la protéger. Quand elle s'en va, il faut pleurer, il faut faire des deuils. Et quand on peut la sauver, il faut absolument la sauver. Aujourd'hui, la parole de Dieu tourne autour de la vie qui est sacrée. D'abord, la première lecture, 2 Samuel 18, de 9 à 10, puis de 14 à 30, texte entrecoupé, vous ajoutez 19, 4. Samuel, dans son deuxième livre, 18e chapitre, nous présente une situation difficile dans laquelle se trouve David. Son fils vient de mourir. Absalom est décédé. Absalom, c'est celui qui avait tenté un coup d'état contre son père. Son père a survécu à ce coup d'état. Et pour les proches de son père, David en veut à mort à Absalom. Voilà pourquoi ils vont tuer Absalom, notamment Joab. Ils pensaient que David était comme le roi de l'Antiquité. Le roi de l'Antiquité était impitoyable. Parfois, ils tuaient leurs propres enfants. C'est ce que fera Hérode le Grand. Akaz l'a fait dans l'Ancien Testament. Il avait tué l'un de ses enfants. Hérode le Grand fera autant. Il va tuer aussi certains de ses enfants. Ils étaient impitoyables. Alors voilà pourquoi, étant donné qu'Absalom avait monté un coup d'état raté contre son père, les proches de David étaient convaincus que David fêterait à la mort d'Absalom. Parce qu'on est dans les contextes de l'époque où les rois, pour garder son trône, pouvaient tuer son fils. Alors ils sont venus lui annoncer le décès d'Absalom, mais malheureusement pour eux, heureusement, David s'est mis à pleurer. Il a fait le deuil d'Absalom. Il n'en revenait pas. David a compris que la vie est sacrée. Ce n'est pas parce que Absalom voulait tuer David que David peut se réjouir de la mort d'Absalom. C'est la première leçon à retenir de la liturgie de la parole d'aujourd'hui. La vie humaine est sacrée. Même si c'est quelqu'un qui ne s'entendait pas avec vous qui est parti, il faut regretter, il faut faire le deuil s'il est faux. Parce que demain, ce sera ton tour. Toi aussi, tu as des gens à qui tu as peut-être fait beaucoup de mal. Alors, si vous ne pleurez pas, celui qui est parti, parce qu'il était votre ennemi, il y en a aussi qui, peut-être, le jour de votre mort, ne vont pas pleurer, parce que vous n'êtes pas parfait. Voilà pourquoi il faut considérer que la vie humaine est sacrée. Respectez la vie des autres, et votre propre vie aussi sera respectée. Chers auditeurs, chers internautes, aujourd'hui, par rapport à la vie humaine, qu'en est-il aujourd'hui dans notre société? Est-ce que comprenons-nous encore que la vie humaine est sacrée? Est-ce que nous la comprenons? Dans l'évangile d'aujourd'hui, Marc 5, de 21 jusqu'à 43, on voit Jésus en train de lutter pour la vie. Il faut que la vie soit préservée. Malheureusement, à l'époque où Absalom était mort, Jésus n'était pas là. S'il était là, il aurait peut-être réanimé Absalom. Absalom serait revenu à la vie. C'est ce que Jésus fait dans l'évangile d'aujourd'hui. La vie est sacrée. Quand la vie s'en va, il faut faire le deuil. Il faut pleurer. On ne peut pas se réjouir de la mort de quelqu'un. C'est la première lecture. Et quand la vie est menacée, dans la mesure du possible, si on peut, il faut la sauver. C'est l'évangile. Jésus sauve deux vies. D'abord, la femme qui souffrait d'hémorragie, beaucoup d'hémorragie. Quand le sang coule comme ça, c'est que c'est la vie qui s'en va. Parce que le sang symbolise la vie. Le sang qui coule signifie la vie est en train de partir. La vie coule. La vie est menacée. La vie est en danger depuis 12 ans. Les chiffres sont symboliques. 12, c'est le chiffre d'Israël. Ça signifie que, voilà, cette femme qui souffre depuis 12 ans représente Israël. Israël, et dont la vie est aussi menacée à l'époque de Jésus, la vie spirituelle, la qualité de la vie spirituelle laisse à désirer. Jésus va s'en prendre aux maîtres spirituels de l'époque, notamment aux scribes et aux pharisiens. Il s'en prend à eux parce que ce sont eux qui devraient entretenir la vie spirituelle. Or, la vie spirituelle laissait à désirer à l'époque de Jésus. Et cette situation est symbolisée par cette femme qui souffre d'hémorragie depuis 12 ans, donc dont la vie est menacée. Cette femme touche seulement le vêtement de Jésus, elle est guérie. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce premier miracle que Jésus accomplit dans l'évangile d'aujourd'hui? La foi. Beaucoup de gens touchaient Jésus. Il y en a même qui l'écrasaient. Ils n'ont pas été guéris. Ils n'ont pas été sauvés. C'est seulement cette femme. Parce qu'il a touché dans la foi. Nous touchons le corps du Christ. Nous consommons, nous communions au corps du Christ dans chaque Eucharistie. Imaginez dans votre paroisse, pendant la communion, la file est longue. Combien de gens, peut-être 500, plus de 500, peut-être même 1000, qui vont communier au corps du Christ, qui vont toucher le corps du Christ. Mais c'est pas tout le monde qui peut être sauvé, c'est pas tout le monde qui peut être guéri, c'est pas tout le monde qui peut toucher le corps du Christ, communier au corps du Christ et en recevoir des grâces. C'est pas tout le monde. Parce qu'il y en a pour qui c'est juste un geste qui relève d'une pure formalité. Un geste qu'ils accomplissent par routine. Parfois, quand on dit le corps du Christ, ils ne répondent même pas Amen. Il y a d'autres qui viennent avec beaucoup de dévotion. Il y en a qui font même la génuflexion avant de recevoir le corps du Christ. C'est question de la foi. C'est lui qui a la foi quand vous touchez le corps du Christ. Eh bien, peut recevoir beaucoup de grâces. Même la guérison est possible. C'est le cas de cette femme. Il a touché seulement le vêtement de Jésus. Elle a été guérie. Il y en a qui bousculaient Jésus, qui l'écrasaient, qui étaient en contact en permanence avec lui, mais qui n'ont pas été guéris. Quand vous allez communier au corps du Christ, souvenez-vous de cette femme. Faites cela avec beaucoup de foi. Touchez le corps du Christ. Communiez avec beaucoup de foi. Eh bien, les miracles seront possibles dans votre vie. Jésus avance vers la maison du chef de synagogue de Jaïr. Là aussi, on dit, cet enfant a 12 ans. Cette fille a 12 ans. Ça signifie que c'est encore le peuple juif. Mais les deux miracles se situent dans des contextes différents. Le premier miracle s'est fait à l'extérieur de la synagogue, à l'extérieur de la maison du chef de la synagogue. Le deuxième miracle, c'est dans la maison du chef de synagogue. Donc, et ceux qui vont à la synagogue, et ceux qui ne vont pas à la synagogue, peuvent être sauvés. Le salut n'est plus seulement lié à la synagogue, mais même en dehors de la synagogue, c'est-à-dire dans l'église, on peut être sauvé. Voilà pourquoi cette femme qui souffre d'hémorragie est guérie alors qu'elle n'est pas dans la synagogue. Mais Jésus n'est pas contre ceux qui sont dans la synagogue. Même ceux qui sont dans la synagogue, ceux qui fréquentent la synagogue, il est venu aussi pour eux. Voilà pourquoi le deuxième miracle, c'est la réanimation de cette fille de 12 ans qui représente les Juifs qui sont dans la synagogue, qui prient dans la synagogue. Elle est réanimée. Là, c'est la mort, c'est déjà la mort. Si en dehors de la synagogue, cette femme qui souffrait de perte de sang depuis 12 ans n'est pas morte, mais sa vie est menacée, là, de l'autre côté, dans la synagogue, la vie n'existe plus, c'est déjà la mort. Mais dans tous les cas, Jésus va réanimer cette fille de 12 ans. Elle revient à la vie. Ça veut dire que Jésus défie les temps. 12 ans, c'est beaucoup. On dit que cette femme a dépensé beaucoup sans avoir gain de cause. Mais ce jour-là, eh bien, elle sera guérie. Votre cas peut durer autant d'années, mais il y aura toujours un jour où vous serez surpris. Et nous voulons que ce jour-là soit aujourd'hui. Que le Seigneur vous surprenne agréablement aujourd'hui, après tant d'années de souffrance. Et de l'autre côté, la fille était déjà morte. C'est-à-dire, humainement parlant, ça ne sert plus. On vient même dire au chef de synagogue, nommé Jaïr, ne dérange plus le maître. Parce que c'est fini. Humainement parlant, il y a des situations, des problèmes qui n'ont pas de solution. Mais Jésus sait trouver des solutions aux problèmes qui sont difficiles, voire impossibles à résoudre pour nous les humains. Jésus a toujours des solutions. Il ne faut jamais désespérer. L'espérance ne trompe pas. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde sous sa constante protection, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen.